Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Éric Saunier, maître de conférences en histoire moderne et directeur de l'Institut d'études et de recherche maçonnique. Éric Saunier, bonjour.
Bonjour.
Peut-être avant de commencer cet entretien, faut-il, pour éclairer nos auditeurs, dire ce qu'est l'IDERM de quelques mots ?
Oui, bien sûr. Donc c'est un institut, effectivement, qui a deux fonctions principales. Sa première fonction, c'est de servir un peu d'interface entre la recherche universitaire et la recherche maçonnique qui est très active, et de faire en sorte finalement que chacun des milieux, que ce soit l'université ou la maçonnerie, hein, quelles que soient les obédiences, puissent mettre à profit finalement leurs échanges de façon à produire des travaux de qualité dans le cadre de conférences, de publications, comme les chroniques d'histoire maçonnique, etc. Et puis l'autre fonction, c'est une fonction plus d'extériorisation par le biais de manifestations, d'expositions. Il y en aura une, par exemple, au Havre, entre le mois de mai et le mois de septembre, sur le thème de la mer. Donc c'est aussi une des fonctions de l'IDERM de s'adresser aussi à un public non maçonnique.
En ces temps étranges, on voit ressurgir bien des fantasmes concernant les francs-maçons. Le complot maçonnique de l'abbé Baruel a vraiment la peau dure, si vous me passez l'expression. Aussi, n'ai-je pas résisté à l'envie de vous inviter, Éric Saunier, pour faire un point sur les recherches historiques concernant la période de la Révolution et sur l'action réelle ou supposée de la franc-maçonnerie pendant cette période. Mais peut-être faut-il, pour introduire ce propos, revenir aux représentations du rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution.
Alors effectivement, enfin, c'est vrai que le thème du complot est actuellement, il n'est pas forcément maçonnique, mais enfin demain, les thèses complotrices ont beaucoup de succès. Mais sur un plan historique, le thème des francs-maçons, finalement acteurs et auteurs de la Révolution française, est un thème qui a été très durable et qui a très largement contribué à donner un certain retard à la recherche sur la franc-maçonnerie pendant cette période. Ce qui explique, en gros, durable, il faut quand même dater peut-être un petit peu les choses. C'était vraiment une vision assez fortement ancrée, non seulement dans le grand public, mais aussi dans les milieux un peu savants, jusqu'au bicentenaire de 1989. Et puis après, ça a reculé un peu dans le monde savant. Je suis un peu moins sûr pour ce qui concerne le grand public. Et en fait, c'est pas tant le complot de Baruel lui-même qui était quand même un petit peu gros pour être crédible, puisque son idée, c'était que les francs-maçons directement avaient mis en place...
Les philosophes, les francs-maçons, les Illuminati avaient été directement à la manœuvre dans la Révolution française.
Ça, c'est la grande idée des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, hein, qui est un ouvrage assez monumental qui est publié et écrit à l'époque du directoire, au moment où Baruel est en exil en Angleterre, qui en gros accuse directement les francs-maçons, et notamment les francs-maçons des hauts degrés, d'avoir il a tendance un peu à innocenter les autres, d'avoir mis en place un complot qui aurait débouché sur la Révolution française. Alors, ce complot au sens strict du terme, baruelin, si on peut dire du terme, était plus véritablement d'actualité dans le monde savant à partir en gros de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, la thèse des influences franc-maçonnes sur la Révolution française, qui est pas tout à fait la même chose. Là, on va accuser plus la maçonnerie en tant qu'institution et la loge en tant qu'organisme fonctionnant sur des critères qui peuvent sembler un petit peu révolutionnaires. C'est vrai que les vénérables sont élus.
Il y a une sociabilité démocratique bien avant la Révolution,
oui,
dans les loges.
Oui, il y a une sociabilité démocratique en ce sens où on accueille les protestants à un moment où l'édit de Nantes est encore révoqué. À partir du moment où le Grand Orient est mis en place, donc à partir de 1774, les vénérables sont élus. Donc il y a une rotation des mandats qui est sur des principes électifs qui est un petit peu qui est même totalement avant-gardiste et révolutionnaire dans son principe. Donc c'est vrai que ça a beaucoup entretenu, j'allais dire, cette vision. Alors ce qui évidemment a fait le succès de cette vision qui a été très très forte entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et en gros le bicentenaire, c'est la relecture qu'a fait avec talent d'ailleurs François Furet de l'œuvre d'Augustin Cochin, qui lui est le père un petit peu de cette vision un peu novatrice par rapport à Barruel à la fin du 19e siècle et début du 20e, consistant à dire non, bien sûr c'est pas les francs-maçons en tant que tels qui sont forcément des agents subversifs, mais c'est la loge en tant que société de pensée qui en elle-même est subversive, et le fait qu'il existe des loges, bon, c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est quand même 40 000 francs-maçons.
Une fraternité, des sentiments d'égalité.
Oui, et sur des principes qui ne sont pas ceux de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire accepter la cohabitation entre catholiques et protestants sur des colonnes, avoir un vénérable qui n'est pas nécessairement un noble, alors que de simples membres d'un atelier peuvent être nobles. Il y a une espèce de subversion, d'inversion parfois des rapports sociaux. Et dans sa thèse, c'est en cela que la maçonnerie est subversive. Donc c'est une vision beaucoup plus fine, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus crédible en quelque sorte que celle de Barruel. Et elle a été très forte en gros jusqu'au bicentenaire, qui à mes yeux est à la fois l'acné de cette vision et le moment où ça va décliner.
Et l'idée que aux états généraux, parmi les élus de chaque région, il y ait une surreprésentation des francs-maçons. Cette idée, elle est confirmée, infirmée par des travaux récents.
Alors, il y a un ouvrage qui est assez ancien maintenant, mais qui en gros avait fait un petit peu le point sur ses appartenances de manière assez juste. D'ailleurs, qui est le livre de Pierre Lamarck, qui est un ouvrage véritablement consacré à cette question-là, c'est-à-dire la présence maçonnique aux états généraux. Alors, on constate que cette présence est non négligeable, elle est assez importante, effectivement. Et on constate aussi que on constate trois choses. La présence, mais qui finalement sont très logiques et il n'y a pas grand conclusion à tirer. C'est une participation assez importante, mais à proportion de gens qui étaient assez importants dans la société. Une participation qui est assez équilibrée, mis à part le clergé. Et bien que le clergé maçonnique existe, hein, il y a quand même un certain nombre de prêtres qui sont dans les loges maçonniques, mais ils sont pas très nombreux parmi les députés aux états généraux. On trouve des maçons dans les rangs de la noblesse et dans les rangs du tiers état. Oui. Et puis globalement, il y a une assez forte dominante de modérés, de gens qui vont aller vers ce qu'on appelle tout simplement le Parti patriote en 1789, et puis après vers la Gironde, vers les Feuillants. Mais c'est assez logique, parce que j'allais dire, c'est conforme à la sociologie dominante de la maçonnerie. Donc il n'y a pas matière à nourrir l'idée d'un complot à partir des travaux de Pierre Lamarck qui ont une quarantaine d'années maintenant.
Vous êtes remonté à peu près au bicentenaire de la Révolution, mais depuis cette époque, de très nombreux travaux ont été menés dans le monde savant, universitaire. De nouvelles sources sont disponibles. Vous pouvez faire un point rapidement sur ces travaux et ces sources ?
Oui, tout à fait. On peut d'ailleurs présenter les choses en partant des sources et en calant les travaux qui ont été faits à partir de ces sources. En gros, sur le plan heuristique, la recherche des sources, il y a eu deux étapes un petit peu successives, parce que l'arrivée des archives venues de Russie au début des années 2000 a quand même été quelque chose d'assez important. Dans les années 90, évidemment, sur le plan des sources, on a travaillé sur les sources dont on disposait, c'est-à-dire essentiellement les fonds de la BNF, mais avec des approches méthodologiques qui étaient un petit peu différentes. C'est-à-dire...
Un mot peut-être sur les archives russes pour expliquer que ce sont les archives qui avaient été volées au Grand Orient de France, à la maçonnerie, par les nazis et qu'avaient récupéré les soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que nous n'avons nous-mêmes pu récupérer que en 2000.
Au début des années 2000. Ce qui fait... Et alors l'intérêt de ces archives, c'est que par rapport aux archives de la BNF, les archives de la BNF sont évidemment extrêmement intéressantes, mais elles sont essentiellement constituées de tableaux de loges et aussi d'échanges aussi entre les loges locales ou même parisiennes et l'obédience, mais souvent c'est le plus souvent des échanges lorsqu'il y a un problème. Donc ce qui fait d'ailleurs que des fois on peut avoir l'impression qu'il n'y a que des problèmes en maçonnerie si on est prisonnier de ces archives. Et l'intérêt des archives russes, c'est qu'elles beaucoup de ces archives permettent de connaître un petit peu le quotidien des loges, puisqu'on a les cahiers d'architecture. Et pour resituer un petit peu l'utilisation de ces deux sources par rapport à la Révolution française. Les archives de la BNF, on les a reprises, mais assez souvent, ça a été le cas, par exemple, de Saline Salah sur le Roussillon, qui a soutenu une thèse au milieu des années 2000, vraiment traitant de la Révolution, de la mienne sur la Normandie.
Oui, vous êtes l'auteur d'un travail original concernant 6000 maçons normands entre 1740 et 1848.
Oui, c'est un petit peu moins de 6000 jusqu'en 1830. Et puis après, je me suis aussi intéressé à la période de la monarchie de Juillet, mais d'un point de vue d'une recherche individualisée. Mais c'est 6000 maçons, donc pour cette période, et que ça soit ma thèse ou celle de Céline Salah, d'ailleurs sur le Roussillon, et de quelques autres monographies sur des loges plus précises. Ce qui a été un petit peu nouveau, c'est de ne pas être trop prisonnier des sources maçonniques et de croiser les sources de la BNF avec des sources dites profanes, mais en travaillant sur les individus qui étaient maçons. Et en suivant les carrières individuelles, on arrive à retrouver des traces finalement d'une activité de maçon pendant la période révolutionnaire. Pour ce qui est des archives de Russie, revenus de Russie, sur le plan de l'histoire de la Révolution française, j'allais dire le morceau intéressant, c'est Bordeaux. Ces archives sont inégales en richesse selon les villes. Il y a des villes pour lesquelles on était un petit peu déçus parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus par rapport aux archives de la BNF. Mais pour Bordeaux et quelques autres villes, et notamment pour Bordeaux pendant la période révolutionnaire, il y a un très bon article notamment d'un historien américain qui s'appelle Kenneth Loisel qui exploite les archives des loges bordelaises qui sont en continu pendant la période de la Révolution française, qui évidemment permet de saisir des choses que jusqu'ici l'on avait relativement peu vues.
Justement, l'ensemble de ces travaux contribue à changer nos conceptions sur la maçonnerie, et c'était implicite dans votre propos, notamment pendant la période de la Terreur et du Directoire, mais aussi sous l'Empire. La presque disparition de la maçonnerie sous la Terreur est donc une légende.
Alors c'est pas une légende sur le plan institutionnel. C'est vrai que sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été, j'allais dire, un peu prisonnier à la fois de l'histoire institutionnelle. Alors sur le plan institutionnel, c'est la démission de Philippe Égalité, enfin de Philippe d'Orléans, qui était le grand maître du Grand Orient depuis la naissance du Grand Orient, qui démissionne et qui est exécuté. Donc et puis le Grand Orient et les loges rentrent en sommeil au début juin 1794, au moment de la fête de l'être suprême. Donc partant de cette décision institutionnelle de se mettre en sommeil, et l'idée qu'évidemment ça a favorisé cette idée selon laquelle la vie maçonnique devient totalement atone. Dans la réalité, quand on travaille sur les archives des loges et puis qu'on suit un petit peu aussi les carrières des individus, on se rend compte qu'il y a une vie pendant la période de la Terreur, notamment à Paris, le Centre des Amis Réunis, qui va devenir vraiment une loge qui va permettre à la maçonnerie parisienne de survivre pendant cette période. Et puis dans des villes de province, il y a quand même une condition, j'allais dire, pour que la maçonnerie puisse survivre relativement bien, entre guillemets, sous la Terreur, c'est qu'elle accepte un peu la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle se transforme un peu en société populaire. Ce qui est le cas au Havre, où on a une société qui s'appelle la société des 3 H, qui va devenir une loge du même nom et qui est régularisée quelques semaines avant la chute de Robespierre, ou à Toulouse, où on a un phénomène de loge républicaine. Donc il y a une vie maçonnique pendant la Terreur.
De la même façon, l'idée d'une maçonnerie soumise à l'Empire, bonapartiste, doit être corrigée.
Alors c'est une idée aussi qui doit être corrigée, puisque ce que l'on observe à nouveau en travaillant un petit peu sur les plus précisément sur les carrières individuelles, sur des loges un petit peu locales, notamment dans les départements ruraux, qui sont assez peu étudiés, c'est que globalement, le contrôle de la franc-maçonnerie par les autorités bonapartistes est un contrôle qui dure assez peu de temps. À partir de 1810, c'est terminé. Et entre 1810 et 1815, il est assez intéressant d'observer que la franc-maçonnerie va servir un petit peu de creuset, parce que finalement c'est une des seules associations politiques qui est autorisée par le régime, puisqu'elle était instrumentalisée, mais elle va servir de creuset pour que se forment des groupes de libéraux qu'on va voir ressurgir après 1815, et qui vont donner à la franc-maçonnerie française cette identité de franc-maçonnerie libérale, franchement politisée à partir du Second Empire. Donc ce sont deux périodes... J'allais dire injustement méconnues, parce qu'elles ont joué un rôle assez fondateur en termes de transformation.
Eh bien, Éric Saunier, merci beaucoup de tous ces éclairages, et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir et d'approfondir à partir de ces idées nouvelles de la maçonnerie sous l'Empire. Il me reste à souhaiter vous retrouver le dimanche 7 avril pour la prochaine émission du Grand Orient de France. Vous pouvez réécouter cette émission non seulement sur le site de France Culture, mais aussi sur le site du Grand Orient de France, www.godf.org, et sur lequel vous trouverez plein d'informations complémentaires. Merci à Marie Le Peintre à la technique et à notre réalisatrice, Dany Journeau. Bon dimanche, à bientôt.
Merci.